Bonjour Charles Franquet.
Bonjour Christine.
Que reste-t-il aujourd'hui de la beauté de notre planète?
Ah, heureusement, elle est encore bien belle, elle est en relativement mauvaise santé, ça c'est clair, mais il y a des choses à faire pour redresser son état.
Alors, si vous devriez vous arrêter sur une de ces photos magnifiques parce qu'elle est emblématique, ce serait laquelle?
Oh, il y a par exemple les baleines qui passent à travers un détroit dans des banquises de glace. Tiens, ça c'est une photographie de narwhals qui sont des cétacés qui ont sans doute donné naissance au mythe de la licorne. Hein,
Tout à
vous avez
fait.
un animal avec un rostre extrêmement long. Là, on a des nuées d'oiseaux. Elle est magnifique.
La beauté de la nature que montrent ces photos est vraiment incroyable. Mais dans le texte qui accompagne les photos, vous parlez aussi de la destruction de cette planète à tout va, déforestation, bétonisation, décharge de déchets. Dans quel état la planète se trouve-t-elle aujourd'hui?
Alors la planète va mal sur plusieurs plans. Évidemment, c'est en particulier la consommation effrénée de l'homme civilisé, hein, c'est un secret pour personne. Nous consommons beaucoup, nous nous attendons à avoir des produits en claquant des doigts, et pour cette raison en particulier, les forêts, évidemment, en premier lieu, sont dévastées. Elles l'ont été d'abord pour le bois, pour faire des constructions, ensuite ça a été pour faire des navires, ensuite ça a été pour le papier, et voilà maintenant que c'est pour faire de l'huile, la célèbre huile de palme. Or, on sait l'importance d'une grande forêt pour les écosystèmes. Vous avez énormément d'espèces animales et végétales qui vivent dans ces points chauds de la biodiversité terrestre. Et si vous détruisez des forêts, c'est une réaction en chaîne qui se produit. Et là, je crois qu'on est à un point critique dans l'histoire de la Terre où, pour le moment, on n'a fait que recenser les espèces en voie de disparition. C'est déjà bien, hein, c'est fantastique, de façon un peu linéaire et catalogue. Seulement, ce qu'il nous reste vraiment à comprendre, et c'est là où il peut y avoir catastrophe, c'est les liens, c'est le réseau entre toutes ces espèces. Vous enlevez, c'est comme un effet domino, vous enlevez une ou deux espèces et c'est toute une rangée de dominos qui peut s'écrouler sur la Terre et les conséquences sont 100 fois supérieures à ce que vous croyez au départ. C'est cette vision en système de la planète Terre que ce livre aborde superbement bien. Parce qu'il décrit la planète Terre sous ses grands volets. Écosystème des savanes, écosystème des déserts, écosystème des mondes de glace, écosystème de l'eau douce, écosystème des forêts tropicales. Et à chaque fois, vous voyez dans son ensemble comment fonctionne la planète Terre.
Alors, que faire maintenant, hein? Comment arrêter cette destruction?
Alors heureusement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a beaucoup de choses à faire à l'échelle individuelle. Il ne faut pas se reposer sur les forces obscures en disant c'est eux qui régleront. Non, c'est à tout le monde de mettre la main à la pâte de par ses comportements. Et je suis content de voir par exemple que ma fille m'enseigne l'écologie. Alors que c'est bien de voir que la nouvelle génération est en train de dépasser, est en train de nous dépasser dans sa prise de conscience et dans sa volonté de trouver des solutions. Dans ses choix qu'elle a faits, par exemple, elle a décidé d'être végétarienne. Moi, j'ai du mal parce que j'aime bien manger de la viande, j'aime bien manger du poisson, mais je me limite. Parce que ça, par exemple, c'est un des problèmes, c'est le coût que ça a sur l'écosystème de faire de l'élevage. Alors évidemment, beaucoup de professions en dépendent. Il faut pas, on peut pas arrêter ce genre de choses parce que sinon l'économie s'effondre et c'est pas juste pour ceux qui ont passé leur vie à faire de l'élevage. Et j'en profite puisque je suis l'un des premiers à manger de la viande ou des œufs, voilà. Mais il faut qu'il y ait une transition souple pour qu'on produise moins de ce genre de protéines parce que pour élever une vache, un porc ou même un saumon dans un élevage, la quantité de destruction que vous faites autour pour nourrir cet animal, par rapport à si vous utilisiez le même environnement pour faire pousser des céréales, par exemple, qui nourriraient 10 fois plus de monde, c'est absurde. Il faut donner l'exemple. Il faut trier ses déchets. Il faut faire du compost. Il faut manger intelligemment.
D'accord, donc là vous parlez du comportement individuel, mais à la longue, pédaler, trier les déchets, tout ça c'est important, mais on est dans un système de course à la croissance.
Tout à fait.
Il y a des lobbies qui mènent des campagnes de désinformation,
Oui.
il y a les politiques qui concluent des traités de libre-échange, donc on est un peu quand même David contre Goliath, alors
Oui.
ça ne suffit pas de pédaler et de composter.
Non, c'est exact. Ça suffit pas. Et là, il faut Il faut d'abord se battre effectivement contre la désinformation. Nous avons eu même en France des scientifiques qui pesaient beaucoup au gouvernement, qui ont fait de la désinformation, en particulier sur l'effet de serre, en disant qu'elle n'existait pas ou qu'elle n'était pas due à l'homme. Et j'entends ce discours personnellement en tant que scientifique, même d'amis scientifiques qui ont eu un lavage de cerveau ou qui ne réfléchissent plus, je comprends pas. Et j'ai passé pas mal de temps par courriel à démonter leurs arguments. C'est eux qui essayent de me convaincre que l'effet de serre n'existe pas. Alors je lui ai dit, allez passer des vacances sur Vénus, qui est une planète où il fait 450 degrés Celsius, uniquement par effet de serre. Il n'y a aucun autre mécanisme dans l'univers qui est responsable de ça.
Alors, vous parlez du climat. On a l'impression qu'il se passe des choses. Il y a des COP. On sera bientôt à la COP 25. On a célébré l'accord de Paris. Mais là aussi, les engagements pris par les pays ne sont pas tenus, ne suffisent pas.
Oui.
Que faire?
Oui. Alors ça va déjà dans un bon sens, évidemment, que on ait ces réunions et ces résolutions. Ce qui est important, bien sûr, c'est le travail très important fait par les institutions internationales de collecte de données par des scientifiques. Trouver ensuite, à partir de ces données, une politique, une stratégie pour freiner l'effet de serre ou la déforestation ou la destruction des espèces menacées. Comme vous le dites, Christine, là, on dépend de la politique et on sait combien la politique est changeante, combien elle est souvent menteuse, mensongère. Et il faut élire des personnes qui ont un vrai programme.
En regardant ces photos, on a envie d'aller voir, d'aller découvrir ces endroits. Mais c'est justement le dilemme, l'envie de voir et donc le tourisme détruit encore plus la planète.
Oui, c'est paradoxal. Vous allez observer quelque chose, d'une certaine façon, vous menacez la chose que vous étudiez. C'est un peu comme en physique, si vous essayez de mesurer le mouvement d'une particule, vous avez complètement changé ce que vous mesurez. Et là, effectivement, vous changez ce que vous essayez de protéger en y allant.
Votre message, le message du livre serait « Regardez la beauté là où vous êtes
oui.
et préservez la beauté
oui.
que vous avez sous les yeux ».
Alors, le message du livre, il est très bien construit parce que d'abord, il vous montre les beautés. Et deuxièmement, il vous montre les problèmes sous-jacents à cette beauté, à notre écosystème. Et en troisième lieu, il montre les solutions. Parce qu'effectivement, ça sert à rien de crier au danger et de taper du poing si on ne propose pas des solutions. Et le livre montre toutes les solutions qui ont été apportées, toutes les façons. Par exemple, prenez les forêts qui sont en grande destruction de par le monde, les forêts tropicales. Alors, il y a les mesures coercives où vous allez, par exemple, donner une amende à quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Ça, on a tous eu ça à l'école. C'est une façon d'enseigner. Et vous avez la méthode douce qui consiste à vous expliquer comment vous allez en bénéficier. Alors là, ce sont des grands mots, vous dites, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais justement, vous leur montrez comment, en respectant leur environnement, ils vont devenir plus riches. Et c'est ça qui est important. C'est pas de taper sur les gens quand ils font quelque chose de mal. Généralement, ils le font pas de bon cœur. Souvent, ils ont rien à manger, alors vous allez tuer un singe, parce que vous avez rien à manger, par exemple, dans une forêt. Alors que si on vous apprend que si vous préservez le singe, vous allez pouvoir faire un petit, justement, parcours, pour les touristes, où ils vont payer pour aller voir les singes, vous allez faire beaucoup plus d'argent que si vous mangez un singe. Ça c'est un peu la façon. Pareil pour la forêt amazonienne. On a expliqué par des articles aux forestiers comment raser une partie de leur forêt pour vendre le bois et puis ensuite aller ailleurs, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Ce qu'il faut, c'est raser, c'est couper intelligemment les bois et replanter avec des essences encore plus commerciales que celles qu'on a détruites, et donc gérer le patrimoine forestier. Et on démontre par A plus B que la personne fera, à moyen terme, évidemment, c'est pas à court terme, 10 fois plus d'argent. Et là, si vous parlez au portefeuille des gens, là, ça change leur mentalité. Donc, il y a beaucoup de façons de renverser la vapeur sur de grands problèmes en montrant le bien qu'on peut tirer de la préservation de l'environnement plutôt que dire c'est mal.
Expliquer qu'en s'y prenant intelligemment, on va mieux en profiter, dans un premier temps, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi changer complètement d'approche et dire nous sommes la nature. La nature, ce n'est pas juste quelque chose que nous pouvons dominer, exploiter. Nous en faisons partie.
Ah, philosophiquement, moi, je suis tout à fait d'accord. Un proverbe amérindien dit en fait la terre est en fait nous est prêtée par nos enfants. C'est un changement de mentalité. Oui, tout à fait. Alors, mais comme je vous dis, c'est difficile de changer la mentalité de personnes qui ont faim. Et c'est la majorité des gens sur Terre. Il faut arriver à trouver des solutions pour que les personnes aient moins faim sans détruire l'environnement. Il faut déjà passer par là. Parce que sinon, nous, on parle de notre piédestal où nous avons déjà saccagé la planète, nous, les grands pays consommateurs, pour avoir le luxe que nous avons. Et puis maintenant, nous l'interdisons aux autres. Pas juste. Il faut trouver un équilibre où on peut consommer, continuer à consommer, mais consommer mieux. Et puis effectivement, bon, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Christine, c'est l'intérêt de la vie sur Terre, c'est pas de consommer, c'est de profiter de la beauté de la planète et de s'y conduire en citoyen planétaire responsable parmi toutes les autres espèces animales et végétales qui la peuplent, dont nous dépendons complètement. Alors on ne dira pas assez, évidemment, combien de produits pharmaceutiques, etc., sont cachés dans les espèces amazoniennes ou de pays du bassin du Congo ou d'autre part qu'on est en train de détruire sans même les avoir recensés. Par exemple, les espèces sur Terre, on les détruit plus vite qu'on les recense, pratiquement. On n'en est pas au bout de faire la liste des quelques millions d'espèces différentes qui y habitent la planète. On arrive à peine à estimer. On en a catalogué quand même 2 300 000, je crois, à l'heure actuelle. Mais on pense qu'insectes non compris, parce que les insectes, pouf, il doit y en avoir peut-être 4 millions. Le bilan en ce moment, c'est effectivement que, d'après les statistiques, 1 million des espèces sont menacées sur les à peu près 4 millions qu'on pourrait comptabiliser dans un avenir proche, c'est 25% quand même.
Alors, dans le livre, vous nous emmenez aux quatre coins de la planète, mais la France ne manque pas non plus d'endroits spectaculaires.
Ah oui, la France est un peu sous-représentée dans ce livre, puisque c'est le but du jeu, c'est de montrer des endroits assez exotiques quand même. Mais la France a une très grande diversité géographique, déjà géologique. Enfin, on a des canyons, on a des volcans, on a des bassins, on a des littoraux, on a des mers différentes. On a beaucoup d'espèces, animales et végétales. On réintroduit certaines espèces. Nous avons un très très beau patrimoine à aller regarder. Et j'invite évidemment tous nos auditeurs, où qu'ils soient, dans quelque pays qu'ils soient, de bien regarder autour d'eux quand même cette beauté et d'essayer de la préserver.
Un grand merci, Charles Frankel. Je rappelle que vous signez la version française de Notre Planète, parue aux éditions Dunod.